faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Et des comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est une histoire vieille d'un siècle, oui. Une histoire méconnue parce qu'elle s'est construite à l'ombre des hommes réticents. Mais aujourd'hui, le temps est venu. C'est l'avènement ce soir, c'est le récit épique du football au féminin. De Thérèse Brûlé à Corinne Diacre, voici la 39e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris?
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent burger.
Winter is coming.
Vendredi prochain, le 7 juin, débutera en France la 8e édition de la Coupe du Monde de Football des Femmes, un aboutissement de longue haleine, puisque des femmes pratiquent le football en France, tenez-vous bien, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, oui. Et alors cette Coupe du Monde doit aussi servir à entretenir la mémoire de toutes celles qui ont ferraillé tout au long du XXe siècle pour avoir le droit, juste le droit, de jouer au football. Et bien ce soir, pour raconter cette histoire, trois invités au micro d'Inter. Tout d'abord, elle est actrice, passionnée de football depuis le lycée. Elle fut même gardienne de but. Julie Gaillet, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, une sociologue que nous invitons régulièrement avec grand plaisir, spécialiste du sport féminin, Béatrice Barbus, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et enfin, elle est journaliste, auteur d'une très belle histoire des footballeuses depuis un siècle. Claire Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue. Juste avant les footballeuses, nous accueillerons le coach des actrices, le Dominique Besnard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
À l'affiche ce soir.
Une actrice québécoise qui préfère le football au hockey sur glace. Carole Laure.
Et oui, Besnard se met au sport. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Le programme.
Eh bien, footballeuse, c'est le moment de briller.
Oui, le moment de briller. A tout à l'heure, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec la mort de Michel Serres, annoncée hier. Un philosophe jubilatoire, mais aussi un observateur éclairé de la matière sportive. Michel Serres était un grand amateur de sport, oui, et il a beaucoup réfléchi aux vertus humanistes du sport. Voici quelques bribes jubilatoires donc de ses pensées. Voici le flashback.
C'est une vieille citation de Spinoza que j'utilise souvent. Le corps peut. Il peut beaucoup de choses et même il peut des choses qu'il ne peut pas faire. Il peut quelquefois l'impossible. La preuve, c'est que certains sauteurs en hauteur sautent au-dessus de 2 mètres et à ce moment-là, tout le monde se met à sauter au-dessus de 2 mètres. C'est pas qu'il y a le mimétisme, certainement, il y a l'entraînement sûrement, mais il y a aussi le fait que quelqu'un qui fait voir avec son corps qu'il peut quelque chose de nouveau, tout le monde découvre qu'il le peut aussi. Donc, le corps, d'une certaine manière, il n'est pas réel, il est virtuel, il est potentiel, il peut. Voilà, c'est ça. C'est presque sa définition. Parmi les objets du monde qui ont pour moi un érotisme puissant, il y a la balle, le ballon de rugby, le ballon de basketball, de football, le ballon, la balle de tennis, la balle de chistera, etc. À quoi ça sert, disent toujours les imbéciles? Mais à quoi ça sert un ballon? Ben à rien, vous voyez. Mais si, ça sert quand même à quelque chose d'extraordinaire. Ça sert d'abord à faire bouger mon corps. D'abord. Deuxièmement, la balle est un objet qu'on se passe l'un à l'autre, ou de façon adverse, comme au tennis, ou au contraire, de façon équipière, collective. Et là, je dirais volontiers, et je le dis souvent, que le ballon est un traceur de relations entre l'équipe en question. Et vous vous souvenez, à la Coupe du Monde, j'ai encore vu récemment l'Argentine marquer un but après 25 passes. Et donc, plus il y a de passes, d'une certaine manière, plus l'équipe joue. Mais plus l'équipe joue, plus l'équipe existe. Et plus l'équipe existe, plus nous savons ce que c'est qu'un collectif humain. Et par conséquent, qu'est-ce que le ballon? C'est le traceur de relations d'abord, et c'est l'auteur du contrat social.
Le ballon, c'est l'auteur du contrat social. C'était le sport selon Michel Serres, magnifique. In memoriam. Dans la foulée du philosophe, voici le mémorialiste. Plus influent que Plutarque, moins vénéneux que Saint-Simon, voici les vies parallèles du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie.
Ce soir, Dominique, on a fini par trouver.
Oui, à quelques jours du mondial féminin de football, je me devais de parler d'une actrice qui aurait été en relation avec ce sport. Par exemple, en incarnant la vedette d'un film dont le sujet aurait été le football.
Oui.
J'ai cherché, et avec l'aide de mon ami, l'historien du football, Philippe Collin,
au moins,
j'ai trouvé Carole Laure. Et cette actrice québécoise figure dans deux génériques qui mettent le football à l'honneur. En 1981, à nous la victoire de John Huston, et à mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, en 1984.
En effet, deux films importants sur le football. Carole Laure, c'est avant tout une pionnière, Dominique.
Après Geneviève Bugeaud, dans les années 60, Carole Laure est la deuxième actrice québécoise à avoir foulé les plateaux du cinéma français et s'être fait un nom, ce qui n'était pas coutume dans les années 70. Elle a profité de la vogue du cinéma québécois, marquée par Denis Arcand, Jean-Claude Lauzon et Gilles Carle, et s'est imposée comme l'égérie de cette nouvelle vague canadienne. Oui. Carole Laure, née Carole Champagne, à Shawinigan. C'est voilà. Pas très québécois ce nom.
Oui. C'est un nom indien.
Une ville située à mi-chemin du Québec et de Québec et de Montréal. Elle est adoptée par un couple qui a déjà 6 enfants et résume son enfance d'une phrase « ni pire ni meilleur qu'une autre ». Élevée dans une école religieuse très stricte, elle développe une passion pour le piano. Elle envisage de devenir institutrice, mais elle rêve de comédie. Elle tente alors sa chance à Montréal, tout en suivant des cours de comédie. Elle donne elle-même des leçons de piano pour subvenir à son indépendance.
Et Carole Laure débute au cinéma en 71.
Oui, ses premiers pas devant la caméra sont guidés par Jean Chabot, illustre inconnu, pour son film « Mon enfance à Montréal ». C'est presque autobiographique. Carole a 23 ans et le film est à peine terminé qu'elle donne la réplique à Suzanne Sarandon dans Fleur bleue de Larry Kent. Mais c'est surtout sa rencontre avec Gilles Carle qui lance sa fulgurante carrière. Il l'a choisie pour incarner l'héroïne de son film La mort d'un bûcheron et sa beauté ténébreuse l'érige aussitôt en sex symbole. Elle retrouve ensuite le cinéaste pour Les corps célestes et La tête de Normande Saint-Onge. Au total, Gilles Carle la dirige 7 fois et leur collaboration devient l'une des plus fidèles de l'histoire du cinéma.
Et c'est sur le plateau de Gilles Carle que son destin va se sceller.
Absolument. Le cinéaste cherche un musicien pour la bande originale du film La tête de Normande Saint-Onge et jette son dévolu sur Lewis Furet. Entre Carole et lui, c'est le coup de foudre. Ils deviennent plus qu'un couple, un duo fusionnel. Pour lui, elle devient une vraie chanteuse. En 1979, il monte un spectacle qui sera présenté à Bobino et qui connaît un véritable triomphe. S'en suivent 7 albums et une reconnaissance internationale, notamment au Japon. Si elle est l'incarnation du renouveau du cinéma québécois, Carole Laure se compose aussi une brillante carrière en France. Elle a une 30aine de films à son actif, dont « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier, couronnée de l'Oscar du meilleur film étranger, elle y incarne avec force et pudeur Solange, une femme amoureuse d'un enfant de 13 ans. Elle joue également dans La menace d'Alain Corneau, Croque la vie de Jean-Charles Takela et Sauve-toi Lola de Michel Drache, dans lequel elle parvient à éviter tous les pièges de la sensiblerie avec son personnage atteint du cancer. En 2001, Carole Laure se lance un nouveau défi. En passant derrière la caméra avec Les Fils de Marie et Tout près du sol, deux œuvres très personnelles présentées à la semaine de la critique du Festival de Cannes.
Et bien voici Carole Laure qui évoque ce que représente pour elle un tournage.
On fait vraiment une vraie famille, tous les acteurs le disent et c'est vrai. Pendant qu'on tourne un film, on passe vraiment 2 mois à être très très proche des gens. En particulier quand on est obligé d'être à l'étranger. Donc on se retrouve dans des hôtels à vivre très intimement autour d'un produit à faire, une œuvre à faire. Tu fais un film, t'arrêtes, il faut en avoir un autre, c'est un roulis. C'est des liens très forts, courts. Donc c'est assez débalançant. On est à la fois comme dans une famille très chaude pendant 2 mois et tout à coup, ouf, chacun se... Et c'est très rare qu'on a les mêmes techniciens qui reviennent. Donc on se forme quand même une petite équipe autour de soi. On essaie de garder les maquilleurs, coiffeurs, les gens très très proches. Les gens qui sont collés à vous toute la journée, à vous poudrer le nez ou à écouter vos angoisses, à vous voir travailler. Là, ceux-là me suivent de film en film.
Carole Laure, qui envisage un peu le tournage comme une compétition sportive, finalement, une intensité avec un groupe. Seule actrice qui a joué dans deux films consacrés au football, À nous la victoire de Houston et donc À mort l'arbitre de Mocky, que tu connais bien.
Je la connais très bien parce que je vais souvent au Québec. Elle a une grande qualité. Elle s'occupe vraiment de parler du cinéma québécois. Elle a un côté un peu citoyenne du cinéma québécois, comme Julie Gaillé qui est avec nous.
Absolument.
C'est un peu la citoyenne du cinéma français, c'est-à-dire
des ambassadrices.
Qu'elles ont envie que les choses se fassent. Donc voilà, c'est aussi ça le lien.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique Besnéard.
Merci
à la semaine
Dominique.
Prochaine. Oui, merci Dominique. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Connaissez-vous les munitionnettes ? Ce fut le surnom donné aux ouvrières françaises et anglaises lors de la Première Guerre mondiale. Pendant que les hommes sont au front, les munitionnettes, les femmes donc, les supplés dans les usines d'armement, mais aussi sur les terrains de football. En Angleterre, par exemple, entre 1914 et 1918, on compte à peu près un million, oui, un million de footballeuses amatrices licenciées dans des clubs de football. Ainsi, cette 8e Coupe du Monde des femmes qui débute vendredi en France est héritière d'une longue histoire. Et cet événement populaire, c'est le récit d'une émancipation que portent en elles toutes les footballeuses de l'équipe de France.
Je m'appelle Amandine Henry, j'ai 29 ans, je suis milieu de terrain, je suis capitaine de l'équipe de France. Vivement que ça arrive, parce que ça fait un moment qu'on y pense, et puis j'ai hâte de commencer cette Coupe du Monde.
Je m'appelle Diani Kadidiatou, j'ai 23 ans, j'aime beaucoup le jeu de Kylian Mbappé. On a un peu le même jeu parce que moi je cours vite, mais bon après lui c'est x10. On va pas avoir peur, parce que si on a peur, ça sert à rien de prétendre à un trophée à la Coupe du Monde.
Je m'appelle Gaëtan Tinet, j'ai 33 ans. C'est une chose de caractère, mais j'en suis fière. J'ai fait 2 Coupes du Monde, 3 Championnats d'Europe, les Jeux Olympiques. Je continue à travailler, et pour moi et pour l'équipe.
Le moment de briller.
Le moment de briller.
Le moment de briller.
Le moment de briller.
Les Bleus en route vers le mondial.
Le moment de briller, un film produit par Julie Gaillet, diffusé hier sur TF1, mais qu'on peut voir en rattrapage hein, toute la semaine sur le site de TF1, bien sûr.
Julie, en replay, exactement.
Ouais, ouais. Julie, vous êtes une passionnée de football depuis longtemps, depuis le lycée, si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai lu.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, je crois, voilà. D'où ça vous vient, cette passion pour le football, Julie Gaillet ? Ça vient d'où ?
Bah alors vraiment de la cour de récré, on pourrait en reparler, mais c'est vrai que tout l'espace de la cour de récré est prise en général par les hommes, par les mecs, par les petits garçons qui jouent au foot. Et puis moi j'avais plutôt envie de jouer au foot que de un peu les billes aussi, mais j'aimais vraiment le sport collectif et j'aime ça, cette idée d'être en équipe. Et donc j'ai commencé très très jeune. Après, sans me rendre vraiment compte que j'étais peut-être la seule fille, et petit à petit, je me suis retrouvée dans des clubs, donc après le lycée, et puis même dans un club monté par Canal+, à l'époque
dans les années 90.
Jeune comédienne, voilà.
Vous étiez gardienne de but.
Voilà, parce qu'à l'époque, quand même, j'étais comédienne, j'essayais d'être comédienne, et donc c'était compliqué pour les bleus sur les tibias, et donc j'étais là. Il valait mieux pouvoir, j'avais des gants et des protections, c'était plus simple quand même, gardienne de but, des féminisons. Et j'étais toute seule dans mon petit vestiaire, à côté du vestiaire des garçons. Il y avait un vestiaire de filles, donc dans cet endroit où on jouait sur l'île de la Jatte, il y avait en tout cas un vestiaire de filles, parce qu'il n'y a pas toujours.
Et oui.
Voilà, donc
gardienne de but, c'est un poste d'autorité. Il faut un peu tenir sa défense. C'est un peu une manière de diriger un peu les mecs quand
même. Sarah Boisdi, donc dans l'équipe de France,
la gardienne de l'équipe des Bleus, voilà.
Voilà. Ouais. Parce qu'elle a ce caractère, ce sale caractère, en tout cas moi que j'avais un peu de crier. Gauche,
voilà.
D'aimer être comme ça.
C'est un poste d'autorité. Mais là, c'était des mecs en plus devant vous. La défense, c'était des mecs.
C'était des mecs et qui utilisaient un peu on était très soudés, hein, mais je me souviens de les entendre dire quand même, mais tirer des boulets, mais c'est pas parce que c'est une fille. Voilà, il y avait cette peur de me faire mal et donc certains disaient, mais non, mais attendez, si elle joue avec nous.
C'est qu'elle est capable d'encaisser des boulets.
Voilà.
Hein, évidemment.
Évidemment. Et de plonger.
Et de plonger.
Pas contrairement à certains de penser
que les filles font de la danse et les garçons du foot.
C'est vrai. Béatrice Barbus, vous êtes sociologue, spécialiste du sport féminin. La Coupe du Monde commence vendredi prochain, cette Coupe du Monde des femmes. Au-delà du football, c'est un moment important pour le sport au féminin, Béatrice. C'est une occasion à ne pas manquer, sans doute, pour tout le monde, y compris peut-être les handballeuses, les athlètes, les nageuses. C'est un moment très important, finalement.
Absolument pour tout le monde. Et on ne va pas bouder le plaisir de cette Coupe du Monde de football. C'est un moment important, d'abord parce que cette Coupe du Monde a lieu à un moment propice, puisque ça fait maintenant un petit moment, quand je dis un petit moment, court petit moment, on va dire. Ça fait 2-3 ans qu'on sent un petit peu une dynamique positive monter autour du sport féminin. Et il y a eu l'Euro, effectivement, 2018, il y a 6 mois, où les handballeuses ont été championnes d'Europe. Il y a eu pas mal aussi d'avancées, on va dire, symboliques, qui sont pas encore significatives, en tout cas, sur le plan quantitatif. Et donc, tout ça arrive dans un contexte en plus social qui est plutôt favorable à la question de l'égalité homme-femme, qui s'est imposée, on le voit, on a l'occasion de s'en rendre compte tous les jours, qui s'est imposée non seulement dans l'agenda politique, mais qui s'est imposée comme un vrai sujet, qui s'est réimposé, parce qu'il l'avait été dans le passé, qui s'est réimposé comme un sujet sur lequel aujourd'hui on est obligé de réfléchir et de voir comment on peut faire pour avancer. Donc tout ça fait que il y a une concordance un petit peu des temps, pour reprendre le titre d'une émission célèbre, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que cette Coupe du Monde, si en plus, il y a un troisième facteur, c'est le facteur sportif.
Oui.
Donc si en plus il y a un résultat, et ben là, ça va créer réellement, mais vraiment, une dynamique qui, me semble-t-il, sera durable. Ce qui ne nous empêchera pas d'essayer de rester quand même vigilants.
Julie Gaillet.
Juste, si je peux ajouter en plus, parce que moi j'ai découvert ça en produisant ce documentaire pour TF1, c'est que c'est une transition avec celle de 28-29 ans qui étaient encore amateurs, qui sont dans l'équipe de France, et la nouvelle génération qui arrive, c'est-à-dire que c'est la dernière année qui, elles, ont des contrats fédéraux et sont professionnels.
Des contrats pro, voilà.
Voilà,
elles n'ont pas besoin
pro.
D'avoir un travail en plus pour vivre. La jeune génération.
Exactement. Donc dans la même équipe, là, pour la dernière
pas
fois.
Bon, pas toutes, s'il vous plaît. Pas toutes.
Mais ça arrive.
C'est le cas des filles qui jouent en club, à l'OL, au PSG, à Montpellier.
Mais quand même, je veux dire, ça veut dire que là, il y a une transition qui est en train de se faire. Là, vraiment, c'est une période pour ça.
Et on peut révéler un petit secret. Nathalie Yaneta nous expliquait vendredi soir qu'elle était allée au Racing Club voir à Gaëtan Tinet et voir les nouveaux locaux, etc. Et quand Gaëtan a découvert les nouveaux locaux, elle s'est assise à part des autres joueuses. Et elle s'est mise à pleurer.
Oui.
Pour elle, c'est un changement tellement important.
Pour voir l'évolution, évidemment.
Donc il y a effectivement ça dans cette équipe de France d'aujourd'hui.
Alors Claire Gaillard, rebonsoir. Vous êtes l'auteur d'un très bon livre qui raconte la grande histoire des Bleus, qui est en fait une histoire des footballeuses depuis à peu près un siècle. C'est chez Hachette, aux éditions Hachette. J'évoquais ça il y a quelques minutes, mais c'est vrai que le football pratiqué par des femmes remonte à plus d'un siècle quasiment, pendant la Première Guerre mondiale, notamment en Angleterre, mais ça a été une sorte de locomotive pour la France. Et dès 1919, donc il y a un siècle précisément, il y a un championnat de France de football des femmes.
Ouais, mais le tout premier match remonte vraiment à 1917, donc on est en plein pendant la guerre, où il y a ce premier match 100% féminin issu de deux équipes du féminin sport qui s'affrontent. Ça fait même l'objet d'une petite chronique dans le journal Loto à l'époque. Vous avez évoqué ces munitionnettes. C'est important de souligner qu'on est encore dans une logique d'apporter, de contribution à l'effort de guerre, puisque les hommes sont partis au front, les femmes vont les aider, du coup, en arrivant dans ces usines d'armement et en fournissant ces armes et découvrir ce passe-temps du football. À l'issue de cette Première Guerre mondiale, les hommes reprennent leur place. On est dans une société qui n'est plus la même qu'aujourd'hui, bien évidemment. Elles peuvent continuer à jouer néanmoins parce que, au prétexte d'organiser des rencontres caritatives et qui vont profiter aux soldats blessés, notamment. Et effectivement, il va commencer à y avoir des échanges, des matchs entre sélections anglaises, sélections françaises, qui ne sont pas les sélections officielles, la pratique n'étant alors pas reconnue. Et un premier championnat va naître en 1919 et va finalement... malheureusement s'autodétruire. Va arriver aussi le régime de Vichy qui va interdire la pratique.
Dès 1941, Vichy interdit de pratiquer le football aux femmes.
Ça fait partie des sports qui sont listés comme étant nocifs
et interdits aux femmes. Hein, nocifs à la santé des femmes.
Exactement. Il faudra attendre les années 1960 et précisément 68 avec l'intervention d'un journal, L'Union, qui lance une petite annonce demandant à des femmes si elles ont envie de disputer un match d'exhibition, en l'occurrence. en marge d'une kermesse annuelle qu'ils organisent.
C'est à Reims, d'ailleurs. Donc Reims va être le premier club à monter une équipe de football avec
tout
des
à fait,
femmes.
Absolument. Tout à fait. Ce match va donner l'idée à ces joueuses et à Pierre Geoffroy, qui est alors le journaliste qui a monté l'équipe, de continuer. L'équipe féminine de Reims va se monter et au fur et à mesure, elles vont jouer des matchs de promotion du foot féminin, d'exhibition en France. Et c'est aussi comme ça que la Fédération française va être amenée à reconnaître le football féminin en 1970, et ce qui va amener aussi ce premier match en 1971, officiellement avril 71, pour l'équipe de France féminine. On est donc sur 48 ans d'histoire pour ces Bleus.
48 ans d'histoire, absolument. ES. Là, on a parlé de la réticence des hommes. Dans votre livre, il y a aussi un homme important dans l'accouchement du football des femmes. C'est Aimé Mignot, qui est un type qu'on connaît pas vraiment, et pourtant il joue un rôle très important dans cette histoire qui nous conduit jusqu'à la Coupe du Monde vendredi prochain. Qui est-il, Aimé Mignot?
Oui, il y a plusieurs hommes, on va dire, dans ce livre.
L'un des premiers,
c'est Aimé Mignot, parce qu'effectivement, on va dire donc juste après Pierre Geoffroy, qui a quand même impulsé ce mouvement et cette popularisation du football féminin. Aimé Mignot, c'est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, ancien entraîneur également.
400 matchs en D1.
Voilà, pas défenseur. Des moindres, avec un palmarès conséquent, plusieurs Coupes de France remportées, soit comme joueur, soit comme entraîneur, et qui va être sollicité par la Fédération française de football pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France féminine en 1987.
Pendant 10 ans.
Exactement. Hein. 87-97. Et lui nous dit clairement, je ne savais pas que le football féminin existait, je ne sais pas pourquoi on est venu me chercher. Et lors du premier rassemblement que j'ai, les joueuses me demandent de leur apprendre à jouer au football.
Et il ne comprend pas, lui.
Il ne comprend pas parce qu'en fait, elles savent jouer, ces joueuses, mais elles savent jouer individuellement. Et ce qu'elles lui demandent, c'est d'apprendre à jouer ensemble.
Et oui,
du coup, sa culture tactique, là, va vraiment servir.
Et il va porter jusqu'à une qualification.
Exactement.
La première qualification de l'équipe de France pour un Euro en 97.
Tout à fait. C'est à ce titre-là qu'il est dans le livre, parce que c'est le premier qui a qualifié l'équipe de France pour une phase finale d'un Euro en 97, ce qui va aussi avoir des conséquences, on en parle, sur la vie quotidienne des Bleus, parce qu'il y aura les premières primes versées aux joueuses, les premiers costumes officiels, entre guillemets, c'est Daniel Echter à l'époque.
Bien sûr.
Voilà, et l'arrivée à Clairefontaine, d'ailleurs. Tout ça est impulsé à ce moment-là.
Julie Gaillet, dans cette équipe-là, dirigée par Aimé Mignot, il y a une libéro, une défenseuse centrale, qui est Corinne Diacre, qui va donc être aujourd'hui la sélectionneuse, la coach de l'équipe de France, qu'on retrouve dans le documentaire que vous avez produit à plusieurs reprises. Voilà un personnage assez incroyable, un tempérament, un caractère, une meneuse de femmes et d'hommes d'ailleurs, parce qu'elle a aussi dirigé une équipe de footballeuses de Clermont-Ferrand.
Oui, et puis elle ne nous a pas rendu la tâche facile, puisque quand on est arrivé en parlant de ce documentaire, elle a dit « hors de question d'avoir une caméra à l'intérieur ». Donc ça n'a pas été facile, parce qu'elle veut protéger ses joueuses, enfin c'est notre Didier Deschamps, de la même manière. Pour elle, c'est l'enjeu sportif qui compte. Non, femme très forte. Mais on a réussi tourner et malgré tout à raconter,
et
c'était important.
On la voit réfléchir, agir, diriger.
Elle est
incroyable.
Elle est vraiment très forte.
Le film donne une très belle image de Corinne Diacre.
Avec plaisir.
Elle était déjà dans le staff de Bruno Bini. Elle
était le coach précédent.
Elle était joueuse, elle était dans le staff.
Absolument. Béatrice Barbus.
Mais c'est intéressant l'histoire de. Non, mais c'est intéressant d'entendre ça. Alors moi, on m'a dit qu'effectivement, après. C'est vrai que Noël Le Graët avait joué un rôle très important.
Exactement.
Oui. C'est ça, hein, c'est que c'était l'homme qui
est donc le président de la Fédération française de football aujourd'hui, Noël Le Graët.
Voilà. Je dirais qu'après, on a parlé d'Aimé Mignot, mais il y a eu trois personnes. Alors bien sûr, il y a Aimé Jacquet qui a impulsé après le titre de 98, qui est devenu directeur technique national et qui a porté ce football féminin, la bonne parole, un peu partout en France. Mais ensuite, il y a trois hommes derrière. Le président de Montpellier, Louis Nicolin, en 2001. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, en 2004. Et bien évidemment Noël Le Graët en 2011 avec l'impulsion de ce plan de féminisation. Et pour répondre à votre question, Julie, effectivement, les contrats fédéraux, qui ne sont pas des contrats pro, les contrats fédéraux sont arrivés en 2009. C'est sous l'impulsion de Jean-Michel Aulas, puisque deux de ses joueuses sont parties aux États-Unis, qu'il n'en était pas très très content, deux de ses joueuses phares, Sonia Bonpastor, Camille Abili, qui en parlent dans l'ouvrage, comme Jean-Michel Aulas. Parce que sans contrat, on pouvait les joueuses pouvaient partir comme bon leur semblait, oui, si un club les sollicitait.
Et donc Aulas a mis en place des contrats.
Et donc Jean-Michel Aulas, avec l'aide de la Fédération française, a impulsé ça. Et parce qu'ensuite, il fallait aussi permettre aux joueuses qui le souhaitaient de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions.
Oui, c'est
quand vous travaillez jusqu'à 19h ou 20h, c'est compliqué derrière d'avoir la même efficacité, la même performance au quotidien d'entraînement et en,
et en club. Ces contrats fédéraux, il faut préciser pour que tout le monde comprenne bien, ce sont des contrats de travail. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est
donc,
ça.
Donc c'est vrai. Oui, oui, bien sûr que ce sont des contrats de travail. Ça a permis effectivement aux joueuses de voir qu'on avançait dans le chemin, parce que c'est pas dans le seul sport hein, où il y a eu des contrats fédéraux. Les contrats fédéraux préfigure en fait le professionnalisme, c'est ce qui annonce qu'on va se professionnaliser et puis ça va se transformer en ligue professionnelle avec des contrats de travail standard.
C'est pour ça que je disais l'importance de cette année, de cette Coupe du Monde qui arrive pour ces femmes.
Qui peut aussi catalyser les choses, accélérer les choses.
Ce serait ça qui serait formidable.
Voilà.
Absolument.
18h35 sur Inter, c'est l'heure de l'orchestre, emmené ce soir par Little Sims. Miss du hip-hop londonien de qualité. Le titre joué Offense, ainsi soit-il, come on.
Me again, allow me to pick up where I left off. The biggest phenomenon, and I'm Picasso with the pen. They just wanna talk that stuff, till I hit him with the realness. Figured I should say something, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Make you feel that you'd be earning my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone I wanted, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be say it with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my knight. Got your queen in check, mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill this time, even when I'm chilling. Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. May as well get a birthday cake and it ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a
you're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend.
Ha! Came through swinging at the gate on a mad one, no f- stepping to the kid, trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz, and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jigging through the broad day. And anywhere would I be now, if I went in none of your way. I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy, Jorge. Hold on my plug, I come back in town and I need an ounce, give me more flames. Take mom on the street, like get anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably any caprice and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. When I switch, then they wanna say that I'm a
I said it with my chest and I don't care who I offend. Uh-huh. Ha! I said it with my chest and I don't care who I offend.
L'œil du tigre.
Soir de désillusion pour les footballeuses qui ont longtemps cru à la victoire après ce but de Louisa Nessib.
Philippe Collin.
Mais dans ce quart de finale de Coupe du Monde, l'Allemagne égalise à 5 minutes de la fin sur pénalty. L'angoissante séance des tirs au but est fatale aux Bleus. La France n'a toujours pas battu l'Allemagne en compétition. Battue et inconsolable. Mais dans les larmes, une lueur d'espoir. C'est la France qui organisera la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans.
Sur France Inter.
Et dans 4 ans, nous y sommes. Cette 8e édition de la Coupe du Monde de football des femmes débutera en effet vendredi prochain avec un match d'ouverture au Parc des Princes à Paris qui opposera l'équipe de France à celle de la Corée du Sud. Une Coupe du Monde classique, une excitation, un événement populaire, 24 nations, des matchs à la télévision et pourtant, les filles et le foot reviennent de loin, de très loin même. Et il est toujours intéressant de mesurer l'épaisseur du temps.
de saisir l'évolution des mentalités. Alors écoutez bien ce reportage d'Antenne 2, diffusé il y a à peine plus de 30 ans. C'est un des tout premiers reportages sur le football féminin à la télévision. Et franchement, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose.
Et oui, l'équipe féminine du Crazy Horse qui s'échauffe à sa manière affrontait cet après-midi au stade Jean Bouin d'ici le Moulineau le redoutable 11 féminin d'Antenne 2 emmené par Betty Duro. Dès le début du match, Antenne 2, qui joue en barboteuse blanche, imposait sa technique et son football collectif et parvenait à inscrire un but. L'arbitre, qui sans doute pensait à autre chose, ayant oublié de siffler une charge sur la gardienne du Crazy Horse qui, dans l'action, avait son bas droit filé. En seconde mi-temps, le Crazy Horse égalisait par son avant-centre qui, de 40 mètres, envoyait un véritable boulet de canon. Les prolongations ne donnant rien, venait l'épreuve des pénalties. Une épreuve qu'Antenne 2 emportait à l'arraché. Le public admiratif a vainement demandé aux joueuses d'échanger leur maillot.
La grande classe. Béatrice Barbus, je rappelle que vous êtes sociologue hein, et spécialiste du sport féminin. C'est toujours amusant, hein, on parle d'un son qui a 30 ans, pas 110 ans déjà. Voilà d'où on vient. C'est un traitement média national, Antenne 2. Je pense que c'est limite un JT. Voilà comment on parlait en 79-80 du football féminin à la télévision. Alors tant mieux, on a progressé, mais voilà d'où on vient. C'est quand même assez effarant, n'est-ce pas ?
Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, c'est effarant. pour ceux qui travaillent dessus, oui. Non, c'est du classique. Oui, oui. C'est du classique, et même encore aujourd'hui, même si effectivement les choses ont bien avancé, qu'on n'en parle plus comme ça encore à la télévision, il arrive encore quelquefois que certains journalistes se laissent aller à faire quelques commentaires un peu déplacés et un peu sexistes, pour ne pas dire plus. Donc oui, on vient de loin. Là vraiment, là, je me suis même demandé si c'était un vrai match, si c'était un vrai commentaire, ou si vous ne saviez pas.
Vrai, il y a les images et tout.
D'accord.
Et on trouve les images, tout c'est fantastique.
Non, mais on retrouve dans
le
ce
Crazy
commentaire
Horse contre Antenne 2, c'est
on retrouve dans ce commentaire du classique le corps qui est mis en avant et on fait revenir la sportive à son corps en tant que séductrice pas le corps de sportive hein. Donc le corps qui est regardé par les autres donc voilà on retrouve du classique qui a tendance heureusement à s'atténuer.
Heureusement. Alors j'ai une question pour vous trois puisqu'on parle de Coupe du Monde des femmes, qu'il y a l'engouement qui monte, que tout va mieux, etc. Et puis patatras, Claire Fontaine, patatras. La Fédération Française de Football décide de déloger les filles pour loger les garçons, parce qu'ils ont un match amical contre la Bolivie et puis deux matchs de qualification qui arrivent. Mais nous y voilà. Il y a donc des femmes qui vont préparer une Coupe du Monde de football qui est quand même pas rien, qui est le rendez-vous mondial des footballeurs et des footballeuses. Et on a délogé les filles de Claire Fontaine. Alors, Julie, Claire, Béatrice, qui répond ? C'est quand même compliqué. C'est un petit peu énervant.
C'est un peu énervant. Oui. Je dois avouer que c'était un petit peu énervant. Et puis surtout, voilà, la réponse était c'était prévu. Elles vont être très bien là où elles bougent. Alors, ce qu'on espère, c'est que la prochaine fois, quand les garçons prépareront le mondial.
Voilà.
Là, à ce moment-là, si effectivement les filles doivent venir préparer un match amical,
ils iront à Dinard ou je sais pas où.
Alors je trouverais ça assez juste. Mais là, quand on me dit, mais c'est normal, ils ont deux étoiles, elles n'en ont pas. Oui, mais si vous voulez qu'elles en gagnent une,
bien sûr.
Il me semble que les garçons auraient pu peut-être se poser la question.
Eux-mêmes, dire en fait, d'eux-mêmes. Non, on va aller à Dinard, nous.
Voilà. Mais bon, après, elles étaient en bonnes conditions, et puis elles ont cette habitude-là. L'important pour elles, c'est... Alors, c'est pour ça que c'est énervant, c'est qu'elles veulent des conditions similaires. Et c'est ça le plus important. Elles le disent d'ailleurs, les salaires, ça viendra avec la diffusion, avec la popularité. Et on n'est pas là pour la compétition des salaires. Et dans le documentaire, c'est Gaëtan Tiné qui l'explique très clairement. Ils ont plus d'emmerdes, ils ont plus de pression, ils ont plus d'agents, de choses. Enfin, voilà, mais là, c'est un peu dommage. Oui. C'était un peu dommage. Mais bon, voilà, ça fait partie des...
Béatrice Barbus, qui fait des mimiques, je vous raconte pas. Elle fait des genres, ça me saoule.
Les bras, non, mais oui, les bras m'en sont tombés. Pourquoi les bras m'en sont tombés? Même si j'ai pas voulu m'exprimer, là je m'explique pour la première fois, j'ai pas voulu m'exprimer là-dessus sur les réseaux sociaux parce que je crois qu'aujourd'hui l'heure est à autre chose. Mais les bras m'en sont tombés pour plusieurs raisons. La première, c'est que en effet, à la veille d'une Coupe du Monde de football, il me semble que la priorité doit être donnée à ceux et celles qui préparent cette Coupe du Monde. Donc en l'occurrence les filles. La deuxième chose qui m'a profondément choquée, c'est le communiqué également de la Fédération Française de Football qui considère que ce n'est pas de sa faute, mais celle de la FIFA, qui parce que on n'a pas le droit droit d'être sur un camp de base personnel pendant la Coupe du Monde, sauf que la Coupe du Monde, elle commence le 7 juin. Alors, donc c'est 4 jours avant, bon, sauf que c'était pas 4 jours avant non plus, donc il n'y a aucune raison liée à la FIFA pour lesquelles... Enfin, voilà. La troisième chose qui là, je vois que vraiment le chemin est encore long dans des sports comme le football, c'est quand je lis les déclarations notamment de Corinne Diacre, il n'y a rien de personnel, vraiment, Corinne, elle fait un travail extraordinaire, mais on voit bien en tant que sociologue, hein, j'essaye de prendre du recul, qu'elles ont intériorisé le fait qu'elles passent en second. C'est déjà bien ce qu'on a eu, c'est déjà pas mal, on peut s'entraîner comme tout le monde, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc voilà, et c'est tout à fait classique ça aussi, les sportives en général, effectivement, ont l'habitude, moi la première, hein, quand j'étais en activité, je me suis pas rebellée comme je me rebelle maintenant, donc il y a effectivement une forme d'intériorisation, et c'est quelque chose qui est considéré comme étant de la normalité. Voilà, et quatrième chose, effectivement, je suis d'accord avec vous, Julie, c'est que les garçons auraient pu de même dire, bon, allez, c'est pas la peine.
Oui, ça aurait été très élégant.
Alors, vous savez ce qui m'a encore plus choqué, c'est que, en effet, donc, elles vont ailleurs, on leur demande de partir des chambres, mais qu'on leur, voilà, le soir, on mange quand même tous ensemble.
Oui.
Hein.
Oui.
Donc voilà.
C'est Dominique, Dominique Besnard.
Non, mais je vais aller plus loin.
Ben oui, c'est minable.
Alors,
pu aller à Marcoussi.
Oui, non, mais attendez, à l'heure, en plus, on se plaint du comportement parfois un peu star des joueurs de football. Là, le signal qu'on leur a envoyé, qu'est-ce que c'est? Le signal que la Fédération Française de Football leur a envoyé, c'est que vous êtes au-dessus de tout le monde.
Eh oui.
Vous récupérez vos chambres. Comment voulez-vous que des garçons qui ont des chambres personnalisées, à qui on dit on va dégager l'équipe de France féminine à quelques jours.
Mais là, on a passé le message, je crois.
Vous voyez que le message est bien. Donc, c'est tout ça, moi, qui m'a fait, voilà, en réfléchissant, en essayant de prendre de la hauteur, on voit que ça bouscule pas mal d'idées.
Claire Gaillard, une réflexion.
Oui, pour rebondir sur les propos de Béatrice, quelques précisions, et je partage pas forcément le point de vue ici, mais je pense que c'est important aussi de le souligner. Les joueuses ont pris leur quartier au domaine de la voisine lundi, hein. Les garçons sont arrivés 2 jours plus tard. Ils ont dîné effectivement ensemble. Le domaine de la voisine est juste à côté de Clairefontaine. Et offre des conditions d'hébergement bien meilleures en plus. C'est quand même.
C'est bien de le dire.
C'est bien de le souligner. Pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit concernant Corinne Diacre, elle est depuis 2 ans dans la recherche de la performance et quand elle évoque l'objectif, elle parle du dernier carré et de remporter quelque chose en répétant que l'équipe de France jusqu'ici n'a rien gagné, ce qui est vrai. J'espère qu'on aura ce débat en septembre. Ça sous-entendra peut-être que l'équipe de France aura gagné sa première étoile et je leur souhaite. Mais je pense qu'en attendant, Corinne Diacre, voilà, sa priorité c'est le terrain, c'est les terrains d'entraînement de Clairefontaine qui sont de qualité. Et à mon sens, la polémique aujourd'hui, elle est inutile, c'est faire offense pour quelqu'un qui a travaillé pendant 2 ans sur un ouvrage axé sur les personnes qui ont œuvré pour le football féminin et son éclosion. Il y avait peu de personnes qui, en 2014, quand la Fédération française a déposé son dossier de candidature pour l'accueil de la compétition, y croyaient. Il y avait Noël Le Graët et il devait être 3 ou 4 à côté. Voilà, je pense que c'est faire offense aux dirigeants, c'est faire offense aussi aux 3 sélectionneurs qui se sont concertés pour organiser.
Non, c'était pas ça. Je comprends, elles ont de meilleures conditions, tout ça, c'est tant mieux.
Tant mieux.
Symboliquement.
Ça oui, lance des messages
qui sont très forts.
C'est le symbole qui est très fort.
Moi, c'est ça.
C'est que les garçons sont les princes.
Un petit garçon, une petite fille, quand elle entend ça ou il entend ça, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle n'a pas d'abord, elle n'est pas en interne. Elle n'a pas toutes les infos que vous pouvez avoir en interne, déjà. Mais je comprends bien, je vois bien ce qui s'est passé. Je vois bien et je me mets tout à fait à la place de Corinne Diacre et j'aurais fait le même choix qu'elle. Parce qu'il y a une culture fédérale. C'est l'histoire du football qui est comme ça. C'est pas lié aux gens et aux individus. C'est ça que je veux que tout le monde comprenne.
Et moi, qui par exemple était en train qui vient de produire ce documentaire sur l'équipe des Bleus, qui me retrouve le lendemain matin, donc sur LCI, et la première chose dont on me demande, hier, je me dis mince.
C'est ça qui fait la qualité.
C'était un petit peu ballot et un peu dommage, voilà.
Puisqu'on parle de terrain, de performance et de réussite, on va rappeler qu'il y a 24 équipes qui vont jouer cette Coupe du Monde à partir de vendredi prochain. Ce qui est assez intéressant, c'est fera écho à ce qu'on vient de raconter, c'est que les nations du football des femmes ne sont pas celles des nations du football des hommes. Notamment, les Américaines sont très fortes et les pays nordiques. Mais il y a des raisons à ça, ça s'explique, c'est social finalement, Claire.
Oui, les États-Unis sont la première nation du football féminin, tout simplement parce qu'aux États-Unis, le soccer est le sport roi parmi les petites filles et les
pratiquantes. Notamment les sports du collège et du lycée.
Exactement,
voilà. On joue beaucoup au soccer.
C'est un sport universitaire, voilà. On est licencié.
Ce sont des grandes vedettes aux États-Unis.
Exactement,
hein, ce sont des
égéries qui ont des contrats avec de grands partenaires, de grandes marques. Ça commence à arriver en France parce qu'on parle de l'égalité salariale. Cela passera aussi par des retombées économiques qui ne sont pas encore suffisamment élevées pour le permettre. Néanmoins, on commence à avoir des Françaises qui sont l'égérie de belles marques. On les voit pas mal autour de cette Coupe du Monde. Mais effectivement, aux États-Unis, la culture est nettement plus ancienne. Le sport roi pour les garçons, c'est le foot américain. Donc vraiment le soccer, le football et pour les petites filles. Donc elles sont triples championnes du monde, tenantes du titre. Elles ont remporté plusieurs Jeux olympiques.
Et on va les affronter en quart de finale.
Et potentiellement, oui.
Et
si on
est vraiment ça qui
ça va être un gros match.
Excusez-moi.
Et il y a aussi la
Nordique. On verra. Oui, si. Mais en tout cas, si ça devait arriver, ce serait en quart de finale, et donc c'est tendu.
Au Parc des Princes.
Au Parc des Princes, match à guichet fermé. Ouais. Les pays nordiques. Alors c'est plus historique là pour le coup. On parle des pays, la Norvège, le Danemark notamment, et la Norvège ont été des pays phares. La Norvège que la France va rencontrer dans son groupe, un deuxième match à Nice.
Sans Ada Hegerberg, qui est donc la vedette, qui est premier ballon d'or.
Alors voilà, moi ça a été une révélation. Ça, quand elle a eu le ballon d'or, je me dis enfin ballon d'or, c'est historique, c'est cette année. Bon, déjà la présentation, on voyait que les garçons étaient présentés avec des vidéos, les filles, elles étaient en photo. Mm-hmm. Je me suis dit, les filles ne jouent pas encore, on les voit, mais elles ne sont pas encore en mouvement.
Elles ne sont pas mobiles.
Elles sont figées.
Elles jouent au foot, mais elles sont figées.
Très bien. Et enfin, quand elle reçoit son prix, alors c'était très maladroit de la part du DJ, qui est très charmant, mais
Martin
qui lui
Solveig.
Demande, voilà, si elle s'est twerkée.
Voilà.
Et alors là, on
tombait
des
nues. Une danse très sensuelle, voilà.
Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mm-hmm. J'ai donc dû regarder sur Internet ce que c'était twerker. Mm-hmm. Et elle a dit, not here to dance, c'était son hashtag. Mm-hmm. Et donc, j'ai regardé pourquoi Ada ne jouait pas à la Coupe du Monde. Et c'est parce qu'en
fait... Elle boycotte la Coupe du Monde. C'est comme si Ronaldo ne participait pas.
Elle a des accords avec sa fédération, en effet.
Voilà, parce qu'eux n'ont pas du tout de contrat. Donc, pas du tout la capacité d'avoir des... Et elle demande à ce que, justement, les femmes dans son pays puissent avoir l'égalité, les mêmes moyens,
dans les mêmes conditions.
Dans les mêmes constitutions.
Et je trouve ça très engagé,
super courageux.
Très féministe.
Ah oui.
Et super
courageux. C'est un choix très fort.
Un
choix politique très fort.
Et il faut des sportifs comme ça pour faire avancer les choses.
Parce que c'est s'interdire quand même.
Alors, c'est sûr qu'elle s'interdit une superbe compétition qu'elle n'aura peut-être plus la chance de jouer, on ne sait pas.
Ouais. Mais vraiment, c'est fou.
Julie, pour terminer, là, dans le dernier numéro de GQ, vous avez une longue interview avec notamment deux joueuses de l'équipe de France, la gardienne et la capitaine, Amandine Henry et Sarah Boisdi. Et vous racontez que vous aviez des idoles quand vous étiez gamine, notamment Michel Platini. Mmh. Est-ce que vous avez des souvenirs de Michel Platini dans des matchs, des choses qui vous ont marqué, gamine, de Michel?
Ah, Mais oui, parce qu'il était tout petit. Donc je disais, mais c'est dingue. Ce joueur, le plus petit.
Mais le plus fort. Le plus fort.
Donc il y avait quelque chose d'assez formidable. On avait envie justement qu'il gagne. Non, j'ai beaucoup, beaucoup suivi. Et c'est ça qui est fort. Et c'est pareil dans le cinéma avec la représentation des femmes. Mm. C'est-à-dire que moi, je me voyais en Platini. Et donc j'avais cette façon d'être Platini. Comme quand je vais au cinéma, quand il y a un très beau rôle d'homme, je deviens cet homme. Et donc c'est bien de temps en temps, quand il y a très beau rôle de femme, et donc important qu'il y ait quelques femmes.
En tout cas, merci à vous trois d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez voir en rattrapage sur le site de TF1, le documentaire produit par Julie Gaillet, Le Moment de Briller. Vous pouvez aussi lire La Grande Histoire des Bleus de Claire Gaillard, c'est chez Hachette, et évidemment lire Du sexisme dans le sport aux éditions Anna Moza de Béatrice Barbus. Voilà, merci à vous trois. Allez, l'équipe de France des femmes qui commence donc vendredi cette Coupe du Monde. Voici maintenant le Give Me Five, le
Johnny
Raffin.
Allez, la France.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy, s'il vous plaît.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors, que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien alors, ça y est, on n'y tenait plus, enfin je n'y tenais plus, mais ça y est, c'est vendredi, c'est parti.
Eh oui.
La Coupe du Monde féminine de football va débuter avec, à 21h, en direct du Parc des Princes, le match, on l'a dit, France-Corée du Sud, et juste avant ça, un concert, un grand show. Alors, à chaque Coupe du Monde de foot, c'est pareil, il y a un hymne officiel. En Russie, on s'en rappelle, c'était le titre, on s'en rappelle pas d'ailleurs, Live It Up, interprété par Nicky Jam en featuring avec Will Smith. Cette année, pour les girls, c'est le single Gloria de Jane, que vous connaissez sans doute pour son tube Makeba, c'est pour ça qu'on a connu Jane, qui a été choisi. Et comme je suis hyper cool, en avant-première, là, dans l'œil du tigre sur France Inter, je vous en mets un petit extrait.
I keep my freedom, deep into my bones, I keep my freedom.
dark, but glitter never lasts. Gloria, Gloria, I am my Sonia.
Voilà, alors Gloria. Les rageux vont nous dire que c'est en anglais. Eh ben oui, évidemment, mais moi j'aime bien Jane. Alors après, soyons honnêtes, hein, de tous les hymnes officiels des diverses Coupes du Monde, on se souvient surtout des chants qui sont les chants improvisés, hein, entonnés par les joueurs eux-mêmes, le public ou des artistes, voilà, à la base inconnus. L'an dernier, c'était le ramener la coupe à la maison du rappeur VG Dream que tout le monde avait repris en chœur. Donc on verra là si Jane et Gloria arrivent à s'imposer. En tout cas, ce sera au moins le cas vendredi soir, donc, sur la pelouse habituelle du PSG.
Alors on passe maintenant au football, aux filles et à l'écriture inclusive. C'est bien ça.
Ah, c'est ça. Le défi avec cette Coupe du Monde, ça va être quel vocabulaire utiliser lorsqu'on parle des filles et de football, sans être ni machiste, ni utiliser des mots disgracieux, voire ayant tout un sens différent. Alors je m'explique. Premier problème, parler de foot féminin, déjà. Le foot, c'est le foot.
Eh oui.
C'est un sport. Mmh. Il n'y a pas de foot féminin qui serait différent d'un foot masculin. Voilà. Donc ici, par exemple, on fait attention, enfin autant que possible, hein, de juste parler. Voilà, enfin, d'employer en tout cas le mot foot pour ne pas laisser entendre qu'il s'agirait de deux sports différents. Pour les postes des footballeuses ensuite, bon alors là c'est un peu plus simple parce que l'accord passe pas trop mal en général. Ailière, gardienne, attaquante, défenseuse. Alors là ça tique. Voilà, défenseuse pour la fédération, c'est défenseur. Eux, défenseuses, ils veulent pas. Point barre. Voilà. Mais le gros souci c'est quoi ? Entraîneuse,
eh oui.
Évidemment, bah oui, à Corinne. Parce que là, pas le choix, ce sera entraîneur-re ou entraîneur. Parce que d'après le Larousse, une entraîneuse, c'est une femme dont le travail est d'inciter les clients d'un bar à boire. Et que bon, Corinne Diacre, eh bah, bof. Donc elle-même a peut-être trouvé la solution, elle a déclaré préférer être appelée sélectionneur.
Re.
Sélectionneur re, pardon, avec voilà. Le E à la fin, que sélectionneuse, et donc comme ça, on n'utilise pas ni entraîneur ni entraîneuse. Bonne pioche, coach.
Et oui. Et sinon, on a appris cette semaine que, comme à leur habitude, les footballeuses américaines sont des sportives et des femmes engagées.
Oh ben, on les kiffe. Hein.
Oui.
Ça ne déplaira pas à Julie, Claire, Béatrice et même Dominique, toi, Colin, tout le monde. Dans un entretien au magazine Time, jeudi, la vedette du soccer féminin américain, Alex Morgan,
une grande star
ah, oui,
aux États-Unis,
oui, souvent capitaine, a déclaré que même si les États-Unis remportaient le mondial français, elle ne se rendrait pas à la Maison Blanche pour fêter ça. Voilà. Elle a dit :« Je ne suis pas favorable à beaucoup de choses que l'administration actuelle de Trump défend. C'est pour moi une raison suffisante pour ne pas faire le déplacement jusque Washington. »
Et alors, par ailleurs, il faut bien l'avouer, les footballeuses participantes à la Coupe du Monde manquent un peu de notoriété, mais l'équipe d'Allemagne a réalisé une vidéo assez géniale.
Ouais. Alors en fait, c'était dans le cadre d'une campagne de l'un de leurs sponsors, hein. La Mannschaft, c'est le nom de l'équipe d'Allemagne féminine, elle a été mise en scène en dénonçant les stéréotypes dont elles sont victimes. Donc dans ce clip, les footballeuses appellent notamment les Allemands à ne serait-ce que citer leur nom.
Et oui.
C'est bête, hein. Voilà. Et à savoir ce qu'elles ont fait dans leur carrière, par exemple. Donc elles disent, nous avons gagné 8 fois le championnat d'Europe. Et pour notre première victoire, on nous a remis une jolie batterie de tasses pour boire le thé.
Et oui, c'est authentique, hein.
Non, tout ça est vrai.
Voilà. Ils ont une boîte de tasses de thé.
C'est joli cadeau.
Joli cadeau.
Et elles finissent leur vidéo par cette punchline. On n'a pas de couilles. Voilà, pardon. Qui se dit balls, ça passe mieux tout de suite en anglais. Donc comme ça, on peut dire ballon.
Voilà.
Mais on sait comment s'en servir.
Eh oui, c'est une punchline qui. La vidéo est absolument géniale. Oui,
ah,
absolument. Et pour finir, je vais ton conseil culturel du jour, évidemment.
Ouais, ça va être très simple parce que c'est génial. C'est tout simplement une revue. Ça s'appelle la revue dessinée. On en a déjà parlé. Hein. C'est le numéro 24 cette fois. Donc c'est celui de l'été 2019 qui est 100% consacré au sport. Et aux filles. Alors moi, je vous conseille notamment les toutes dernières pages avec la BD de Michael Correa et Nico Bi, intitulée « Occuper le terrain » qui revient sur l'histoire du football féminin. Spécial case dédiée donc, Colin, à notre émission du soir
et
avec toutes ces girls.
Et à cette Coupe du Monde de football des femmes qui commence vendredi. On salue l'ami Nico Bi, un très bon dessinateur, et Michael Correa, qui est un très bon historien du football. La revue dessinée donc à retrouver tout l'été chez Bokioski au prix de 16 euros. Ça reste raisonnable, 16 euros.
J'adore la revue dessinée.
Ah oui, c'est très bien. Judy Gaillet. Ah, c'est une très belle revue dessinée, absolument.
Très beau, voilà.
Merci Joy, merci à la semaine prochaine. Merci à vous toutes d'être venues ce soir. Merci Dominique, salut. C'est la fin de cette émission réalisée ce soir par H2M, évidemment Marco Mutel, assisté à la technique de Nicolas Cazot. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine avec le destin d'un demi-dieu de la mythologie américaine, Joe DiMaggio, raconté par Jérôme Charine. Vous verrez, il est extraordinaire, Jérôme Charine. DiMaggio, splendeur et misère du plus grand joueur de baseball de tous les temps. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'œil du tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité. Oui, Marilyn, c'est Marilyn Monroe, en effet. C'était le mari, le deuxième mari de Marilyn Monroe. Merci, salut et fraternité.